Notre histoire commence une fois de plus en pleine Renaissance, en l'an de grâce 1520. Dans une Europe divisée, deux jeunes rois se rencontrent pour tenter de former une alliance décisive. Le Français François Ier et l'Anglais Henri VIII. Mais l'ombre d'un troisième personnage plane sur leur entrevue, le très jeune Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. L'empereur et le roi de France savent qu'ils vont devoir se livrer une féroce bataille pour le contrôle du continent et avoir le roi d'Angleterre de son côté serait un considérable avantage. Pour sceller cette alliance, il est convenu d'organiser un fastueux événement qu'on nommera le Camp du Drap d'Or. Cet incroyable sommet diplomatique prendra place dans le nord de la France, non loin de Calais, alors possession anglaise. Il s'agit de la première visite officielle d'un roi d'Angleterre en France et tout naturellement, le roi de France compte bien en mettre plein la vue à son royal invité. Mais le caractère fougueux des deux jeunes rois risque bien de tout faire échouer. Le camp du Drap d'Or se veut somptueux. Il mobilise près de 10 000 ouvriers, charpentiers, tisserands et autres artisans. La description de la magnificence de l'endroit donne encore aujourd'hui le tournis. Côté français, on dresse près de 400 tentes et pavillons de drap d'or et d'argent, doublés de velours bleu. La tente qui accueille le souverain français est qualifiée par des chroniqueurs, qu'on jugera sans peine légèrement dans l'excès, aussi haute que la plus haute tour. Une colossale statue de Saint-Michel terrassant le dragon trône au sommet et quatre immenses salles parsemées de lis d'or composent son intérieur. Les Anglais ne sont pas en reste, notamment grâce à la majestueuse demeure d'Henri VIII, amenée en l'état par la mer depuis l'autre côté de la Manche. C'est un petit palais, doté d'une immense verrière sur toute sa façade. Notons qu'à l'époque, une simple vitre était assez rare, alors imaginez l'impression que laissait aux curieux cet océan de verre qui s'étendait sur toute la surface du château miniature. Clou du spectacle, la demeure accueillait en son sein trois fontaines, une qui dispensait bien entendu de l'eau, mais les deux autres proposaient du vin et de l'hypocrase, un vin aux épices, vestige tout droit venu de la Grèce antique. Cet amoncellement de richesses avait bien entendu un coût, et les esprits chagrins rappelaient sans mal que ces apparats avaient englouti près de 400 000 livres, soit la richesse annuelle de la France, somme qui fut empruntée à travers toute l'Europe. Le faste des lieux n'interrompt pas les diplomates s'affairant en coulisses. Tous s'activent pour sceller cette alliance si stratégique, en ne sachant pas que tout va basculer. François Ier et Henri VIII, respectivement 25 et 28 ans, goûtent peu à ces discussions diplomatiques d'apothicaire et préfèrent s'adonner aux nombreux plaisirs qu'offre ce ravissant camp du Drap d'Or. De nombreuses joutes amicales se succèdent pendant plusieurs jours entre Anglais et Français. Très vite, un certain chauvinisme émerge rapidement des deux camps, notamment lors d'un concours de tir à l'arc remporté par Henri VIII, qui lui laisse l'occasion de se pavaner, ce qui n'est pas sans énerver le souverain français. Cette confrontation franchit un nouveau cap lorsque les deux rois décident d'un nouveau jeu. Ils vont s'affronter dans une lutte à main nue, force brute contre force brute, pour le plus grand plaisir des courtisans présents. Les sources divergent sur la raison de cette empoignade. Les chroniqueurs français, toujours aussi orientés, arguent que le roi d'Angleterre était spécialement venu avec sa troupe de lutteurs pour confronter François Ier. Une autre hypothèse, qui met toujours dans l'embarras Henri VIII, est que le roi d'Angleterre aurait pris ombrage du comportement du français. François Ier était en effet un excellent danseur et ne se privait pas de faire profiter la cour de ses talents. Talent qui attirait l'œil de nombreuses dames présentes, y compris une certaine Anne Boleyn, femme d'une beauté à perdre la tête, courtisée assidûment par Henri VIII. Pour rabrouer le caquet à cet importun de français, Henri VIII l'aurait provoqué en duel. Quoi qu'il en soit, on organise rapidement au milieu d'une tente un véritable ring pour les deux royales combattants. D'un côté, le roi de France, grand et mince, de l'autre, le roi d'Angleterre, immense et à l'imposante carrure. Les deux adversaires se mettent torse nu pour le plus grand plaisir de la foule qui manifeste bruyamment. Les règles sont simples, une féroce empoignade et le premier qui réussit à mettre au sol l'autre remporte la manche. Le combat est lancé. Les deux rois se toisent d'abord, mais très vite se jettent l'un sur l'autre dans un grand fracas. Le mouvement effréné de leur imposante masse crisse sur le parquet de la tente et les cris de la foule deviennent assourdissants. Henri VIII, qui semblait sûr de sa victoire, se rend très vite compte de la tonicité et de la vigueur de son adversaire. François Ier finit, grâce à un habile croche-pied, par déséquilibrer Henri VIII qui s'écrase sur le parquet dans un épouvantable fracas. Le roi d'Angleterre se relève aussitôt pour reprendre la lutte, mais il finit à nouveau cul par-dessus tête. La foule sent bien la fureur de l'humilié Henry qui cherche à nouveau à se relever. L'impressionnant combat est malheureusement pour lui stoppé net car on annonce le souper. Henri VIII tente bien de renouveler l'affrontement dans les jours suivants, mais rien n'y fait, personne ne veut que le camp du drap d'or se finisse en une catastrophe, la bouffonnerie a déjà assez duré. Tout cet étalage de richesse et de splendeur n'aura finalement pas servi à grand chose. L'entrevue du camp du drap d'or se finit sur une piteuse note, aucun accord d'importance n'est trouvé. Chacun se salue poliment et rentre chez soi. On pourrait penser que c'est cette bagarre qui a tout gâché, mais en vérité, tout était déjà joué en coulisses. D'ailleurs, Henri VIII, sur le chemin du retour vers l'Angleterre, rencontre Charles Quint dans une réunion sommaire, sans aucun faste, mais augurant cette fois-ci d'une véritable alliance solide, au grand détriment, bien entendu, de François Ier. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. N'hésitez pas à nous retrouver pour nos nouvelles aventures dans le prochain épisode de La Bagarre. En attendant, restez curieux et passionnés d'histoire.